Théologie mystique Saint-Jodard, 84-85, le 6 juin 1985.
Jésus n'avait jamais été face à Pilate. C'est dans la dernière semaine, et dans les derniers jours de la dernière semaine, que nous voyons Jésus face au grand prêtre, et là c'est très court, c'est très rapide, parce que Jésus ne veut pas répondre. Jésus n'a pas à leur répondre, ils ont perdu leur autorité. Tandis qu'au contraire, vis-à-vis de Pilate, Jésus répond. Et non seulement Jésus répond, mais Jésus donne toute une théologie sur « Je suis roi », le grand mystère de la royauté du Christ. Et le grand mystère de la royauté du Christ, nous devons le découvrir à travers ce que Jésus lui-même nous dit, ce que Jésus dit lui-même à Pilate. Il révèle à quelqu'un qui sait ce que c'est que l'autorité, son autorité. Pilate sait très bien ce que c'est que l'autorité. Je crois que les Romains ont été ceux qui ont été le plus conscients de ce que c'est que l'autorité. Donc, il faut exagérer. Ce sont des hommes de droit. Alors, parce que ce sont des hommes de droit, ils ont un très grand sens de l'autorité. Ça, pater familias, c'est quelque chose. Et on voit ce que représente l'autorité de César et l'autorité de tous ceux qui sont autour de César. C'est d'autant plus impressionnant, vous voyez. Les Grecs savaient moins bien ce que c'était que l'autorité. Parce que peut-être que les Grecs étaient plus attentifs à l'intelligence. Et les Romains sont plus attentifs au gouvernement. Ça, je crois que c'est toute la différence entre le génie grec et le génie latin. Ce sont deux génies très grands, mais qui n'ont pas la mise en lumière de la même façon. Face aux Grecs, nous voyons ce que dit Jésus. Face au peuple grec qui vient à Jérusalem pour la Pâque, et face à Pilate, qui a un très grand sens de l'autorité, Jésus reconnaît qu'il est roi, tu l'as dit. Et c'est très beau d'avoir laissé Pilate lui demander s'il est roi. Il sait ce que c'est. Les grands prêtres ne savent pas très bien. Mais Pilate le sait. Et tu l'as dit. Et Jésus, tout de suite, souligne « Je suis roi. Moi, c'est pour cela que je suis né. C'est pour cela que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc il faut être de la vérité pour écouter la voix du Christ. Comme une condition, si vous voulez, pour écouter la voix du Christ. C'est assez important et ce serait assez intéressant de comprendre cela par rapport au mystère de la foi. Écouter la parole de Jésus, c'est un mystère de foi. Et pour pouvoir entrer dans ce mystère de foi, il faut être de la vérité. Il faut donc que notre intelligence soit éveillée vers la vérité pour qu'elle soit capable ensuite de coopérer à l'acte de foi. Évidemment, Dieu peut donner la foi directement sans qu'il y ait eu ce désir, mais normalement, et ce sont ceux qui ont soif de la vérité qui sont capables de recevoir la lumière de foi. Pilate lui dit, qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors cette fameuse parole qui restera toujours énigmatique, puisque de fait Jésus ne répond pas. Et si cette parole reste énigmatique, c'est sans doute pour que nous comprenions que toute l'humanité, jusqu'au retour du Christ, sera toujours dans cette recherche de la vérité. Il n'y a pas de réponse du Christ. Jésus ne vient pas donner une réponse à ça, voyez. Il vient donner une réponse à quelque chose de beaucoup plus profond, l'alliance de Dieu avec les hommes. Il est le sauveur des hommes. Et quand on pose qu'est-ce que c'est que la vérité, Jésus ne vient pas expliquer ce que c'est que la vérité. Il ne nous donne pas le De Veritate de saint Thomas, hein, en disant la vérité c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Distinguer les différents points. Non. C'est aussi très significatif, ça. Ça montre bien que ce que nous sommes capables de découvrir par nous-mêmes, Jésus ne favorise pas notre paresse. Dites-vous bien ça. Jésus ne favorise pas notre paresse. Et donc Jésus veut que par nous-mêmes nous découvrions ce que c'est que la vérité. Il laisse à Pilate le soin de découvrir. Pilate est assez grand. Pilate est assez grand. Pilate sait ceux qui sont capables de l'instruire de cette manière. Et donc, il n'a qu'à lui-même essayer de découvrir ce que ça doit être. Ayant dit de cela, de nouveau, il sortit vers les Juifs et il leur dit, « Pour moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais vous avez coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» C'est très curieux, cette phrase de Pilate. Pilate dit ça avec l'intention de délivrer Jésus. Et ça va faire juste l'inverse. Ça va augmenter la souffrance de Jésus. Puisque, de fait, les Juifs vont choisir Barabbas à Jésus. Les Juifs ont choisi Barabbas et les grands prêtres ont choisi César. Si je regarde les deux choix, les deux choix de préférence, les Juifs ont préféré Barabbas à Jésus. Et c'est Pilate qui les a mis devant ce choix. Et Pilate veut pourtant sauver Jésus. Alors on pourrait dire, mais c'est un manque d'intelligence. Il aurait dû comprendre la passion de jalousie terrible qui animait le peuple d'Israël contre Jésus. Et donc, il ne pouvait pas se permettre de dire cette phrase. « Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» C'est maladroit. C'est un manque d'intelligence par rapport au peuple d'Israël. Ça, je crois. C'est très curieux, cette phrase. Parce qu'elle n'est sûrement pas de mauvaise intention. Elle est très maladroite. Au fond, on voit très bien que Pilate est maladroit vis-à-vis de cette foule. Et qu'il a augmenté la souffrance du Christ. Alors, c'est pour nous enseigner quoi? C'est pour nous enseigner que les hésitations dans celui qui a l'autorité, les hésitations, c'est toujours un manque de prudence. Celui qui a autorité est responsable. Et donc, il n'a pas le droit d'hésiter. Je crois qu'il y a ça. C'est pas dit explicitement, hein, mais c'est quand même dit explicitement, c'est quand même dit implicitement, si vous voulez, parce que on voit bien que par deux fois, Pilate va augmenter la souffrance de Jésus. La flagellation et le couronnement d'épines, et puis le choix. On a choisi Barabbas. Et c'est Pilate qui en est un tout petit peu la cause. Il en est la cause parce qu'il a manqué de force dans l'exercice de son autorité. Je sais très bien que c'était très difficile pour Pilate. Pilate ne pouvait pas prévoir qu'il aurait à porter le jugement sur quelque chose d'aussi important. Juger le Fils de Dieu, qui lui est livré par son peuple est discerné si ce Fils de Dieu est juste, innocent ou non. C'est terrible pour un homme. Hein ? Il n'y a pas eu aucune autorité humaine qui s'est trouvée dans un cas aussi invraisemblable et aussi terrible. Aucune autorité humaine ne s'est trouvée devant un cas semblable. Pauvre Pilate, hein ? Il faudrait être un contemplatif, il faudrait être magnanime, il faudrait être capable de porter un jugement sur ce mystère vu du côté humain, puisqu'il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi d'Israël. Donc il n'a pas la foi, Pilate. C'est un Romain, c'est un païen, si vous voulez. Il a une âme religieuse, je crois. Il a une philosophie stoïcienne. Qu'est-ce que représente la philosophie stoïcienne face à Jésus ? On pourrait se demander si Pilate avait eu la philosophie aristotélicienne ou celle de Platon, si ça aurait changé quelque chose. Hein ? C'est quelque chose d'important pour essayer de le faire vous-même. Hein ? Ce serait très intéressant de voir ça. Ce qui est sûr, c'est que sa philosophie stoïcienne a été complètement dépassée. Et que cet homme qui ne paraît pas un imbécile, cet homme qui paraît quand même savoir ce que représente l'autorité de César, a été complètement dépassé. Et on le voit par deux maladresses. Dès qu'on exerce l'autorité et qu'on est dépassé, c'est-à-dire qu'on est devant des cas qui nous dépassent complètement et qu'on n'avait pas prévu, on devient maladroit. On devient timide. On ne sait plus ce qu'on doit faire. On n'a pas de référence. Évidemment, le droit romain n'avait pas de référence par rapport à celui qu'on présenterait comme fils de Dieu. Il n'y avait pas de référence. Et vous savez bien, quand on suit le droit, on aime d'avoir des références, les piquis. Alors on se réfère à certaines expériences particulières. Pilate est complètement dépassé. Alors on le voit par deux fois, et je crois que c'est pour ça, vous voyez, c'est quand même très intéressant que Jean accorde une telle importance à cette entrevue de Jésus et de Pilate. Nous, de notre temps, nous n'avons pas d'importance. Hein. L'autorité de Pilate, rien du tout. Pas du tout. Jean donne une grande importance à ce dialogue de Jésus avec Pilate pour que je crois que nous comprenions mieux ce que représente l'autorité de César face à l'autorité du roi des Juifs, face à l'autorité de Jésus. Que nous comprenions mieux, voyez, tout l'abîme qu'il y a entre l'autorité de César et l'autorité de Jésus. Un abîme invraisemblable, hein, puisque l'autorité de Jésus est une autorité divine, une autorité qui est pour rendre témoignage à la vérité. C'est une autorité qui est pour un royaume intérieur, donc un royaume d'amour. C'est pour cela. Et le pauvre Pilate, qui a de la peine de s'ouvrir à quelque chose qui va un peu plus loin que ce que représente l'ordre romain. Voir ce que ça représente, l'ordre romain. La bonne entente entre un pays soumis et un pays qui le domine. Il est bouleversé devant cela. Et je crois qu'il est bouleversé devant cela. Alors vous savez bien qu'il existe une espèce de légende, un évangile de Pilate, un évangile apocryphe, Et je crois que c'est intéressant, ça n'a pas d'importance pour notre foi, mais au point de vue historique, ça a une importance, ça prouve qu'on a compris ce qu'il y avait de si extraordinaire de voir Jésus face à l'autorité romaine. Le pape face l'ONU, hein, c'est moins grand, c'est bien évident, mais c'est quand même impressionnant de voir ce que représente l'autorité du pape, qui est l'autorité du vicaire de Jésus, face à ce qui se représente aujourd'hui comme l'autorité mondiale. Avec la seule différence, c'est que l'ONU n'a pas eu une autorité d'efficacité, tandis qu'au contraire, César avait une autorité très efficace. Ça, c'est bien évident. Quand Saul de Tarse en fait appel à César, il sait très bien qu'en faisant ça, il se met sous la protection de la plus grande autorité du monde d'alors. Et il est sous cette protection. Une autorité qui implique un pouvoir, et le pouvoir souverain. Et César est Pilate est conscient de ça. Et Jésus, c'est comme l'agneau. Vous voyez, quand les Juifs ont proclamé que Jésus était roi, Jésus a été au-devant d'eux, assis sur le petit d'une ânesse. Et quand Jésus est en face de Pilate, Jésus garde toute sa dignité d'homme et montre que son royaume n'est pas de ce monde. Je crois que c'est important pour nous, vous voyez. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de textes qui montrent ce que représente l'autorité souveraine du Christ et l'autorité temporelle limitée de César et de Pilate. Vous voyez, quand nous avons essayé de voir très rapidement en philosophie politique, ce problème du lien entre l'Église et l'État, nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir, parce que c'est quand même très important, ces rapports entre l'Église et l'État. Ça reste toujours des problèmes très très difficiles. Eh bien, la grande lumière, c'est Jésus face à Pilate. Ah, c'est évident que c'est la grande lumière. C'est ça qui doit nous éclairer, qui doit nous aider à avoir une toute petite lumière sur le Saint-Père face à Mitterrand. C'est ça. Le Saint-Père face aux autorités des pays soviétiques. Très très mystérieux, ça restera toujours un mystère. Alors vous aurez toujours des extrémistes de droite et de gauche. Et les extrémistes de droite et de gauche diront, mais qu'est-ce que ça représente cette autorité? Le pape, seule l'autorité, attention. Dieu respecte le conditionnement de l'homme. Et c'est dans la ligne du conditionnement de l'homme que nous devons comprendre l'autorité politique. Exactement comme on respecte le conditionnement de l'homme au niveau psychologique. Et que l'autorité du Christ et l'autorité de l'Église, c'est du côté de la finalité. C'est la finalité que le Christ nous donne et que l'Église nous rappelle. Donc, mon royaume n'est pas de ce monde, parce que la finalité profonde de l'Église n'est pas de ce monde. L'Église s'achève dans l'Église glorieuse. Donc, elle n'est pas de ce monde, cette autorité. Elle est au-delà. Elle est une autorité invisible. C'est une autorité d'amour et une autorité de vérité. Alors, il faut relire souvent ce texte et essayer de vous-même, à partir de là, de comprendre les principes qui sont engagés dedans. Ces relations mutuelles entre l'Église et l'État. Alors maintenant, nous allons entrer dans le chapitre 19e, le grand chapitre qui termine la vie de Jésus. Alors donc, Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête. ils revêtirent d'un manteau pourpre. Ils venaient vers lui et disaient « Salut le roi des Juifs !» Et lui donnaient des coups. Donc Pilate, là, indirectement, a livré Jésus au ricanement de la foule, a livré Jésus pour la flagellation du couronnement d'épines. Pilate aurait dû, s'il avait exercé vraiment son autorité d'ami de César, il aurait dû éviter ça, par faiblesse, par fragilité, parce qu'il avait peur du qu'en dira-t-on. Et Pilate de nouveau sortit dehors et il leur dit « Voilà que je vous amène dehors pour que vous connaissiez que je ne trouve aucun motif de condamnation à lui. » Jésus donc sortit dehors portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Vous voyez là encore la maladresse de Pilate. Point de vue du gouvernement. Il excite les passions plutôt que de les apaiser. Vous avez les trois grandes faiblesses de Pilate. Ce serait très intéressant à étudier, ça. Les trois grandes faiblesses de Pilate qui nous sont montrées avec force, qui sont peut-être les trois grandes faiblesses de ceux qui ont autorité et qui se trouvent devant un cas inédit, quelque chose qui les dépasse et qui se trouve en dépendance d'une pression. Tout un mouvement de pression. Parce que là, on peut dire, c'est la foule qui fait ce mouvement de pression. Et derrière, il y a les grands prêtres. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lors donc qu'ils le virent, les grands prêtres, les gardes vociférèrent. À la croix, à la croix. Pilate leur dit, prenez-le, vous, et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. Mais c'est terrible, hein, comme lâcheté. Par trois fois, je ne vois pas de motif de condamnation. Et il le livre. Ça ne peut être que de la lâcheté. Je ne vois pas autre chose. Son jugement est droit et ses actes ne correspondent pas à son jugement. Parce que quand on considère que quelqu'un est innocent et qu'on voit en face de nous une multitude qui vocifère contre lui en disant « à la croix », donc c'est-à-dire « crucifiez-le », on n'a pas le droit de livrer l'innocent à la foule dont on est responsable. Il y a une espèce de lassitude, il y a aussi, je crois, il ne sait pas quoi faire. Vous savez, quand on ne sait plus hein, et qu'on est un peu orgueilleux, on prend des solutions de facilité et on livre, on se débarrasse. Moi, je vous ai dit ce que je pensais, vous ne voulez pas, tant pis, c'est vous qui êtes responsable. Ça, c'est de la lâcheté, hein. On n'a jamais le droit, au point de vue humain, de faire cela. C'est vraiment ne pas aller jusqu'au bout de son mandat. Ce n'est pas aller jusqu'au bout de son autorité. Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. Les Juifs lui répondirent, nous avons, nous, une loi. Et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. C'est net, c'est très net. Au nom de la loi, voilà, le motif premier, le motif qui est au fond du cœur de ces Juifs et des grands prêtres, j'allais dire que c'est le motif officiel, selon la loi. Nous avons, nous, une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Lors donc que Pilate entendit cette parole, il eut encore plus peur. Il entra de nouveau dans le prétoire. On comprend. S'il a affaire vraiment au fils de Dieu, et qu'il le liquide de cette manière-là, par lâcheté. Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu, toi ?» Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Alors c'est curieux qu'à partir de ce moment, Jésus ne fait plus aucune réponse. Alors est-ce que ce n'est pas exactement pour le même motif que par rapport au grand prêtre? Quelqu'un qui est lâche dans l'exercice de son autorité n'a plus d'autorité. Et donc Jésus ne répond plus. Quelqu'un qui avait usurpé son autorité n'a plus d'autorité, et donc Jésus ne répond plus. Ça c'est pour les grands prêtres. Vous voyez, il y a cette double attitude de Jésus qui est tellement importante pour nous, parce qu'elle nous éclaire, elle nous fait comprendre le pourquoi. C'est pas le hasard, c'est pas parce que Jésus tout d'un coup devient de mauvaise humeur, hein. C'est pas ça du tout. Parce qu'il est las, ça continue indéfiniment et que Pilate ne comprend rien. Non, c'est pas à cause de ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est parce que Pilate a perdu son autorité. On perd son autorité quand on est lâche et qu'on livre un innocent à ceux qui veulent le tuer. On est responsable quand on doit exercer l'autorité. On est responsable sur ceux qui nous sont soumis. Ça, c'est la grandeur de l'autorité, c'est en même temps la très grande difficulté d'exercer vraiment l'autorité. Parce que si on exerce l'autorité, on n'est pas seul responsable, on est responsable à l'égard de ceux qui nous sont soumis. Elle dit, d'où es-tu roi? Et Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit donc, tu ne parles pas, moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir pour te relâcher et que j'ai pouvoir pour te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Jésus ne donne pas d'explication, mais devant l'interrogation de Pilate, qui se présente comme ayant une autorité absolue, Jésus montre la vérité. Et la vérité, c'est ça, la théologie de l'autorité. Une phrase extraordinairement importante. Tu n'aurais aucun pouvoir, aucune autorité contre moi, s'il ne te l'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui m'a livré demande toute l'autorité dans une vision sainte. Toute autorité est panelle, elle relève du Père. Et toute autorité est en vue de l'exercice de la miséricorde paternelle. Et dans cette lumière, Jésus montre que celui qui l'a livré, c'est-à-dire Judas, un péché plus grand que celui de Pilate. Jésus montre qu'il pêche par lâcheté, qu'il agit mal, et c'est pour ça qu'il se tait. Si Pilate avait bien agi, Jésus aurait répondu. Et Pilate a mal agi, par fragilité, par peur. Alors Jésus ne lui répond plus. Vous voyez, ça fait partie de ces silences de Dieu. Vous voyez, c'est là la très grosse difficulté pour nous d'interpréter les silences de Dieu. Il y a des silences de Dieu parce que nous sommes lâches à l'égard de ce que nous avons à faire. Alors Dieu se tait. Si on résiste au Saint-Esprit, le Saint-Esprit se tait. Et si on donne une petite chiquenaude hein, sur les paupières de la colombe s'évanouit. On ne peut pas tuer le Saint-Esprit, mais on peut résister au Saint-Esprit. Quand on résiste au Saint-Esprit, le Saint-Esprit se tait. Il n'agit plus. Ça, c'est un fait. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit, c'est le Père des pauvres. Parce qu'il n'agit que sur les pauvres. Si vous agissez selon votre propre autorité, selon vos propres convictions, selon ce qui vous semble être vrai, et qu'au bout d'un certain temps, ce qui vous semble être vrai passe devant le Saint-Esprit se tait. Il y a des silences de Dieu qui sont tout simplement la conséquence que nous avons résisté, que nous n'avons pas été jusqu'au bout de l'obéissance. Et il y a des silences de Dieu qui sont pour nous permettre d'aller plus loin dans l'amour. Pas si commode que ça d'interpréter les silences de Dieu. Hein. Il faut les interpréter dans notre vie. Il y a des silences de Dieu qui peuvent provenir tout simplement que nous sommes dans la tiédeur. Nous avons résisté au Saint-Esprit. Vous nous avez dit plusieurs fois, faites attention, faites attention. Puis, il ne faut aucune attention. On a continué. Puis il y a des silences de Dieu qui proviennent d'un grand amour de Dieu sur nous, parce que Dieu veut nous envelopper de sa miséricorde, Dieu veut nous laisser libres. Alors Dieu s'efface, l'Esprit Saint s'efface pour nous laisser passer devant. Ça c'est très important au point de vue profond pour nous dans notre vie, d'arriver à discerner ces silences de Dieu. Il faut les discerner. Je crois qu'ici, nous avons quelque chose qui nous permet de discerner un de ces silences de Dieu. Jésus montre donc que l'autorité, toute autorité temporelle vient de Dieu. Elle se fonde sur Dieu. Et si toute autorité temporelle se fonde sur Dieu, l'autorité de César, nous devons la respecter dans la mesure même où cette autorité vient de Dieu. C'est assez extraordinaire que Jésus dise ça en face de Pilate. Mais Jésus ne vient pas en tant que voulant à tout prix et par tous les moyens libérer son peuple du joug des Romains. Théologie de la libération. Il vient en premier lieu pour leur donner une lumière intérieure. Je suis témoin de la vérité. Ce qui ne supprime pas notre point de vue, mais qui le met en second lieu. Tu n'aurais aucun pouvoir, aucune autorité contre moi s'il n'en avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Comme c'est curieux. Avant, il ne cherchait pas à le relâcher. Il n'était pas assez attentif. C'était un cas parmi les autres. On n'a jamais le droit de faire. Chaque fois qu'on est en face d'une personne humaine, on est en face de quelque chose d'unique. Et chaque personne humaine doit être regardée pour elle-même. On n'a pas le droit de la confondre avec l'anonymat de tous. Quand on exerce l'autorité est nécessairement personnelle. Et donc elle est toujours d'une personne à une autre personne. Le pouvoir peut-être anonyme, mais pas l'autorité. À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Pourquoi ? Parce que justement, il a compris qu'il y avait en Jésus quelque chose qui dépassait les autres hommes. du roi. Mais les Juifs vociférèrent. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Ça, c'est le dernier argument. Ça, c'est l'argument de la basse. Le dernier argument pour saisir ce qu'il y a de vulnérable dans celui qui exerce l'autorité. Et pour faire que celui qui exerce l'autorité soit lâche. On le secoue. Hein. Ça, c'est l'astuce hein, de la masse, de ceux qui au fond ne supportent pas l'autorité. Mais les Juifs vociférèrent, si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. L'autorité absolue de César, reconnue par le peuple d'Israël, et qui rejette ça contre Pilate. C'est extraordinaire comme victoire du démon. C'est ça qu'il faut regarder. C'est la victoire du démon, c'est la manière dont le démon arrive à inculquer son venin pour que le peuple d'Israël puisse arriver à mettre Pilate de leur côté. Alors il y a un moyen très bon, un moyen étonnant. Si Pilate avait agi avec un peu plus de grandeur d'âme, il aurait dit ça me regarde, ça ne vous regarde pas. Et ça c'est vrai. Et il est saisi, il a commis une faiblesse, il a commis une fragilité, donc il n'a plus de force. Vous savez, quand on commence à commettre une faiblesse, quand on exerce l'autorité, on n'a plus de force. Ça glisse, terrain glissant. On a commencé de descendre le fleuve, hein, de faire comme tout le monde. On a voulu flatter. Et dès qu'on veut flatter, on est perdu. Puisque on abandonne sa véritable finalité. On se laisse conduire par les autres. Mais les Juifs vociférèrent, si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Vous voyez la morale stoïcienne, c'est très très jolie cette morale stoïcienne appliquée ici, hein. Elle est constamment appliquée dans l'évangile de Saint Jean. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas un ami de César. Si tu... L'hypothèse, si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Mais ce que ça représente comme logique, hein, l'hypothèse va devenir nécessaire. Alors que, en toute bonne logique, l'hypothèse ne peut pas nous conduire à la nécessité. Or, ici, l'hypothèse conduit à la nécessité. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. On peut relâcher cet homme pour de multiples motifs. Si on le relâche parce qu'il est innocent, on reste l'ami de César. Mais pour eux, si tu le relâches cet homme parce qu'il se dit roi, et tu ne le relâches pas parce qu'il se dit roi, tu relâches parce qu'il est innocent. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Vous voyez, c'est très gros hein, comme raisonnement. C'est les raisonnements de la psychologie de la masse. C'est toujours aussi gros que ça. Des raisonnements qui ne portent pas. Mais étant donné la situation, ça a une influence énorme sur César. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Voilà ce qu'on va montrer, vous voyez bien. Donc si tu relâches cet homme, il s'est dit roi, donc tu n'es pas l'ami de César. Pilate donc, entendant ces paroles, fit amener Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal
en un lieu appelé Lithostrotos, en hébreu Gabbata. C'était la préparation de la Pâque. C'était environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voilà votre homme, voilà votre roi. » Il est aux affirmations, hein? « Voilà l'homme, voilà votre roi. » Et là encore, Pilate n'a rien compris. Voyez comme il veut avoir l'approbation de la foule. On n'exerce pas l'autorité en désirant avoir l'approbation de la foule. Si on exerce l'autorité en voulant avoir l'approbation de la foule, on glisse le plus possible et de plus en plus. C'est bien évident, parce que la psychologie de la foule fait que dès qu'on voit qu'on livre quelque chose, immédiatement, on le prend. Et alors, on met l'autorité. Et Pilate est mené à ce moment-là. Il n'est plus du tout libre. Il est mené. Et il s'est lui-même mis dans le guépier. C'était la préparation de la Pâque. C'était environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voilà votre roi. » Ils vociférèrent donc, « à mort, crucifié. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Ça, c'est une phrase très lourde. « Nous n'avons de roi que César. » C'est l'acceptation radicale de ne plus être en dépendance directe de Dieu. La royauté en Israël était consacrée. Nous n'avons de roi que César. Alors donc, il leur livra pour être crucifié. Vous voyez cette espèce de logique. À partir de cette phrase, hein, si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Nous, nous sommes amis de César. Et nous n'acceptons pas quelqu'un qui se dit roi. Donc, tu dois faire la même chose. Il le mène par le bout du nez. Vous voyez tout ce qu'il y a de gros, hein, comme confusion. Jésus a dit avant qu'il était roi, mais que son royaume n'était pas de ce monde, donc il n'est pas en opposition vis-à-vis de César. C'est un autre royaume. Il n'a rien à voir, il n'y a pas d'opposition. Et Pilate, sous l'emprise des grands prêtres, sous l'emprise du peuple religieux qui de plus en plus se fait fort, Pilate est là. Alors donc, il leur livra pour être crucifié. Donc il le sait très bien. Donc, je crois que là, il y a quelque chose de très très grand pour nous. La manière dont l'autorité se dégrade, la manière dont l'autorité humaine, temporelle, politique, perd toute sa grandeur et sa dignité. La manière dont successivement, progressivement, il se laisse emmener là où il ne voudrait pas au début. Si on avait dit à Pilate qu'au point de départ, il livrait Jésus pour être crucifié, je crois que Pilate aurait réagi. Je ne connais pas de condamnation en lui. Par trois fois, il leur dit. Vous voyez, je crois que c'est important pour nous de saisir ça à la lumière de l'Apocalypse. Essayez de voir dans l'Apocalypse la bête de la terre et la bête de la mer. Essayez de comprendre ce que ça veut dire pour l'Église. Et comme le mystère de l'Église n'est intelligible pour nous qu'à partir du Christ. C'est la mort de Jésus, c'est la condamnation de Jésus qui nous montre la lutte à son maximum.
Une fois que Pilate livre Jésus, on est en face de l'exécution. Alors, il n'y a plus rien d'intelligible. Ce qui est important, c'est le choix de Pilate. Un choix forcé. Alors donc, il le leur livra pour être crucifié. Donc c'est ce choix de Pilate qui est la chose importante à saisir. Et de voir comment Pilate, progressivement d'homme honnête et juste, arrive à être complice d'une jalousie, d'une malhonnêteté religieuse. Il est complice. Lui qui, encore une fois, au point de départ, était droit. Lui qui avait sûrement de la sympathie pour Jésus. Sûrement. Beaucoup de sympathie. Lui qui était éveillé, particulièrement éveillé, qui s'intéressait à la vérité. Eh bien, il lâche. Ça, c'est une chose, ça vaut la peine au point de vue, voyez, comme je dirais, comme une analyse que nous devons faire, hein. C'est quand même tellement important. C'est le moment de la plus grande lutte qui a existé dans le monde. C'est le moment de la plus grande lutte. C'est le plus grand drame qui a existé dans le monde. Alors, il faut saisir comment on est arrivé à cette conclusion. En face de Pilate, crucifiez-le. Allez-y. L'imperium négatif de Pilate. Parce que c'est l'imperium négatif, c'est laisser, il a tout laissé. Il n'a pas eu la force de résister, il pouvait le faire. Il était le seul à pouvoir le faire. Il n'y avait aucun danger pour lui. C'est bien évident, c'est pas cette fouille, c'est pas cette foule qui aurait pu faire quelque chose contre Pilate. Pilate était bien armé. Il n'y a pas de danger. Il a eu quand même peur. Alors comment se fait-il que l'autorité se corrompt si vite? Vous avez bien, selon toutes l'évangile, selon toute l'écriture, et ça je crois que c'est dans toute l'écriture, la chose la plus difficile à sanctifier, c'est l'exercice de l'autorité. C'est la chose la plus difficile à sanctifier. Ça, ça se voit dès le point de départ, et ça se voit à travers toute l'écriture, et ça se voit jusqu'ici. Le dernier qui doit exercer l'autorité, c'est Pilate. Et Pilate, malgré sa bonne volonté, malgré tout un contexte qui aurait dû l'aider, Pilate est lâche. Pilate se laisse faire. Ah, je dis bien ça. Regardez, vous n'avez qu'à regarder. Vous savez bien, j'aime de regarder la manière dont Dieu reprend l'humanité par son peuple. L'alliance avec les pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a des petites difficultés, mais ça aboutit bien. Et ils sont tous enterrés ensemble, ce qui montre bien. Et quelquefois avec leurs épouses, ce qui est encore mieux. N'est-ce pas ? Mais ça aboutit bien. C'est une alliance paternelle, familiale. L'alliance avec Moïse, c'est le législateur, ça n'aboutit pas. Tellement difficile de sanctifier l'intelligence. Et l'alliance avec les rois, ça aboutit à la folie, ça aboutit à une espèce d'orgueil effrayant, tyrannique, ce qui fait qu'à ce moment-là, on est capable de faire des injustices effrayantes, et ça aboutit à une fausse gloire. L'alliance avec les rois, or avec les rois c'est l'autorité, avec les patriarches, avec, je veux dire, avec les rois Saül, David et Salomon. Et ces trois alliances n'aboutissent pas. Il y a une blessure dedans, tellement c'est difficile de sanctifier l'autorité. Et ce que nous voyons alors à l'égard des patriarches, à à l'égard de ceux qui suivent immédiatement les patriarches, Moïse et les rois, nous le retrouvons ici. L'autorité même religieuse, j'allais dire presque surtout religieuse, est très difficile à sanctifier. Et la seule manière dont Jésus nous apprend à la sanctifier, c'est la pauvreté. C'est-à-dire une autorité qui s'exerce en étant une autorité paternelle toute d'amour, en acceptant les moyens pauvres, c'est-à-dire en acceptant de ne pas s'appuyer sur le pouvoir, ce qui est très difficile. C'est très très important, je crois, pour nous, de regarder ça dans la lumière de l'Apocalypse. Vous voyez, et de comprendre la corruption de la bête de la mer et la bête de la terre, qui doivent s'allier pour réaliser la mort de Jésus. Et c'est bien l'alliance des deux, la bête de la terre et la bête de la mer, puisque toutes les deux s'allient pour arriver à ce résultat. Donc on est bien là en face d'une lutte à son paroxysme. Cette lutte qui encore une fois, est une lutte par rapport à ce que représentent les exigences profondes de la vérité de l'amour. Alors donc, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Maintenant, ils sont libres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Entièrement. Pilate s'est mis en dehors. Il s'en est lavé les mains. Complètement. Prirent donc Jésus, et portant lui-même sa croix, il sortit vers le lieu dit du crâne, c'est-à-dire en hébreu, Golgotha. Saint Jean souligne simplement, vous voyez, c'est ça qui peut-être est très impressionnant pour nous, de voir cette longue discussion, cette fragilité de Pilate. S'est laissé complètement influencer par la foule, par la masse religieuse. Il n'a pas eu le courage d'être le défenseur de la vérité et d'être lié à Jésus, à la vie et à la mort. Quand on rencontre Jésus, ça vaut la peine d'être lié à lui, à la vie et à la mort. Et bien Pilate, non. C'est aussi très très beau, vous voyez, pour nous, c'est quelque chose de bouleversant, ça. Jésus n'a pas converti le cœur de Pilate. Parce que il a laissé Pilate libre. Mais quelquefois, on est bouleversé parce qu'on ne convertit pas le cœur de celui qui nous attaque, de celui qui nous fait du mal, de celui qui nous injurie, de celui qui blasphème contre nous. Et on dit, si j'étais plus saint, j'arriverais à le convertir. Ou bien c'est le raisonnement de ceux qui sont d'à côté. C'est pas étonnant. S'il avait été plus saint, il aurait converti. Jésus, le saint des saints, n'a pas converti Pilate. N'a pas converti les grands. Si c'est pour nous, il les a rencontrés au moment suprême de sa vie. Au moment suprême de sa vie, il ne les a pas convertis. Ils sont restés tels quels. Les grands prêtres sont restés avec leur jalousie farouche, jalousie pontificale, n'a pas supporté que Jésus passe devant. Et Pilate a aimé plus son pouvoir que son autorité. Et je crois que c'est cela. Il a aimé plus son pouvoir que son autorité. Si Pilate avait été rectifié jusqu'au bout et qu'il aurait préféré son autorité à son pouvoir, il aurait été avec le pauvre, celui qui était condamné, celui qui était rejeté de tous. Mais il n'a pas eu
assez de cœur, assez d'intelligence pour aimer plus l'exercice de l'autorité, être au service de l'innocent. Il a préféré la gloire humaine, le pouvoir. C'est ça qui nous est montré. Pour le cœur de Jésus, c'est aussi terrible, hein, comme appauvrissement. Vous voyez, l'appauvrissement de Jean-Baptiste, hein, au désert, quand il est en face des Lévites et des prêtres, et que ces Lévites et des prêtres, il ne les convertit pas. C'est terrible pour le cœur de l'apôtre d'être en face de personnes humaines qu'on n'arrive pas à convertir. Avec tout l'amour qu'on peut y mettre, on n'arrive pas. Jean-Baptiste n'a pas converti ses Lévites et ses prêtres. Et Jésus n'a pas converti les grands prêtres. Et Jésus n'a pas converti Pilate. Quel grand mystère, ça, hein. Au point de vue de la liberté de l'homme. Au point de vue de ce que Jésus laisse, parce qu'il avait tout pouvoir, toute autorité, Jésus. Il aurait pu. Non. Il n'a pas voulu. Et les autres n'ont pas accepté de se livrer à celui qui était l'autre.